Bonsoir et bienvenue à cette émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Mon invité ce soir, c'est Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonsoir, Francine.
Bonsoir, Claude.
Alors, nous poursuivons une série de paraboles. Hein. Je crois que si ma mémoire est bonne, on serait rendu à la troisième parabole.
Et la quatrième.
Oh, la quatrième. De suite.
Oui.
OK.
Oui.
Donc, pendant quatre dimanches de suite, là,
oui.
On a ces paraboles plutôt extravagantes.
Hein. Oui, celle d'aujourd'hui, en tout cas, est particulièrement extravagante. Et au fond, les paraboles qui, je le rappelle, misent sur l'art de raconter hein, et de bien raconter pour provoquer une réflexion chez l'auditoire. Et aujourd'hui, on cette parabole des invités à un festin qui finalement décident de ne pas venir et qui sont remplacés par d'autres, elle a sa part d'extravagance, ça c'est sûr, et particulièrement dans la version de Matthieu. Qui est celle que nous utilisons dans ce contexte de l'année liturgique A.
Et je pense que pour bien la saisir, au moins dans les débuts, vous allez faire une comparaison avec celle de Luc.
Oui, parce que la parabole dans Matthieu, elle est dans un contexte d'affrontement. Dans l'Évangile de Luc, nous avons la même parabole dans un tout autre contexte. Alors, voyez, celle chez Matthieu que nous allons lire, elle vient après la parabole des vignerons de la semaine dernière, où Jésus annonce que les grands prêtres et les pharisiens, on leur enlèvera la vigne, bon, elle sera donnée à d'autres, ils cherchent à l'arrêter. On est à Jérusalem et on voit que le conflit est vraiment ouvert. Et donc, c'est un contexte qui va influencer notre lecture de la parabole dans Matthieu. Or, si on lit la même parabole dans l'Évangile de Luc, c'est tout autre chose. On est au chapitre 14 de l'Évangile de Luc. Un pharisien a invité Jésus chez lui. C'est peut-être pas son meilleur ami, mais c'est pas un affrontement non plus, puisqu'ils sont attablés à plusieurs ensemble. Et Jésus va en profiter pour donner une série d'enseignements sur les places à table, inviter les gens qui peuvent pas vous le rendre. C'est dans ce contexte-là qu'on a cette parabole dans l'Évangile de Luc. Donc, c'est très différent, beaucoup moins polémique.
C'est ça. Donc, de même source, de même origine,
oui.
Mais traité différemment selon... que c'est l'évangéliste Luc ou l'évangéliste Matthieu.
Oui, et bon, nous avons là un très bon exemple de comment se faisait la transmission chrétienne, hein, le processus de transmission des paraboles racontées par Jésus dans un contexte précis qui est la plupart du temps inconnu, finalement. Et comment ces paraboles-là sont transmises après Pâques? Et le problème de la transmission chrétienne, c'est le changement d'auditoire. Et c'est vrai particulièrement lorsque Jésus adressait des paraboles à des adversaires ou dans des situations très tendues. Ça ne peut pas être le même auditoire puisque le catéchète enseigne ces paraboles-là à des chrétiens qui donc ne sont pas des adversaires, ne sont pas stressés face à Jésus. Et... Alors, vous voyez, le problème que la catéchèse chrétienne avait, c'est la parabole de Jésus, elle a quel sens pour nous? On ne va pas la transmettre seulement pour se rappeler que Jésus l'a enseigné.
Donc, on en fait une adaptation.
On doit en faire une adaptation. Hein,
on prend la parabole telle que Jésus l'a racontée à son époque et on s'en sert... pour catéchiser, on la travaille d'une certaine façon,
voilà.
On l'adapte.
À cause, particulièrement à cause du changement d'auditoire, hein, comme je vous disais. Mm-hmm. Et on a ici un très bon exemple, puisqu'on peut mettre ensemble la parabole de Luc 14 et la parabole de Matthieu 22 que nous allons entendre et voir les différences et voir qu'elles ont été transmises dans des milieux différents et utilisées pour des catéchèses différentes. Alors, la parabole qui nous est familière, ici, c'est la version de Luc, parce qu'elle pose moins de problèmes. Hein. Un homme donne un grand souper, il appelle des invités. Les invités sont trop occupés à cause de ce qu'ils viennent d'acheter. Et il va envoyer cet homme, des serviteurs, inviter les pauvres et les estropiés dans la rue. Et là, on reconnaît le souci de Luc pour la proclamation de la bonne nouvelle aux exclus. C'est ça, la parabole dans Luc. Alors, pendant que vous nous la lirez dans Matthieu, on pourrait observer ce qui nous frappe, ce qui nous étonne, parce que c'est vraisemblablement ce que Matthieu a changé sur la parabole de Luc. On pourrait observer aussi en quoi la parabole est devenue extravagante ou étrange.
Alors, ce sera donc la parabole qui sera proclamée dans toutes les églises catholiques du monde dimanche prochain. C'est en Matthieu, au chapitre 22. Jésus répondant, leur disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils restèrent indifférents et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour regarder attentivement les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certes, la multitude est appelée, mais les élus sont peu nombreux.
Alors, vous avez peut-être remarqué des éléments disparates. Bon, à commencer par la finale, c'est habituellement cette partie-là qui frappe le plus les gens. Elle est plus dure, cette finale où quelqu'un condamne un pauvre type ramassé dans la rue uniquement parce qu'il n'est pas endimanché. Il y a quelque chose de tout à fait invraisemblable. Et ces particularités-là de Matthieu révèlent l'orientation de sa catéchèse, hein? Par exemple, d'autres invraisemblances. Hein, les invités vont tuer les serviteurs. Luc est plus réaliste. Ils vont s'excuser. C'est pas toujours des bonnes excuses, mais il n'y a pas de raison de tuer les serviteurs qui viennent leur rappeler l'invitation. On a la réaction violente du roi aussi, qui tue les invités qui ont décidé de ne pas venir et qui brûle la ville. Pendant ce temps, le repas attend, le repas est toujours prêt. Là. Vous voyez comment il y a des ajouts qui vont surcharger le récit dans Matthieu. Les mots et les images, ce sont les outils de Matthieu pour faire réfléchir. En ajoutant cette section sur l'invité qui ne porte pas le vêtement de noces, Matthieu débalance le récit. La parabole qui nous paraît la mieux construite, c'est celle qui nous est familière. Les premiers invités, leur refus, les seconds invités. Ça, c'est un récit bien équilibré. Avec l'ajout de Matthieu, on a...
De cet homme qui n'a pas le vêtement de noces.
Oui, c'est ça, exactement.
Ça, on se demande qu'est-ce que ça vient faire, d'une certaine
façon.
Tout à
fait. Ouais. Ça répartit le récit en deux parties différentes. Ça le rebalance autrement. On aura les premiers invités qui refusent et qui sont jugés et condamnés, et les seconds invités qui sont aussi jugés et qui, à travers l'un d'eux, seront pesés pour voir s'ils sont dignes ou non.
Quand vous dites qu'ils seront aussi jugés par l'intermédiaire de celui
qui ne porte pas la robe.
Ça
représente le fait que les seconds invités aussi sont jugés.
Voilà.
Voyez, c'est comme si, finalement, Matthieu propose un bref survol d'histoire du salut en deux étapes. D'abord, le jugement d'Israël qui refuse l'annonce du Messie est représenté par la première partie avec les premiers invités. Et ensuite, les nouveaux invités qui correspondent pour Matthieu au nouveau peuple de Dieu, l'Église, sur laquelle aussi le jugement va s'exercer. Il redouble le premier scénario en ajoutant la section sur la robe. Ça va nous inviter, nous, à nous sentir comme Église concernés directement par cette deuxième partie.
Francine, dès le début, vous nous disiez la différence entre la parabole rapportée par Matthieu puis celle qui est rapportée par Luc. Et vous disiez que l'objectif de l'évangéliste, c'est pas simplement de rapporter ce que Jésus a dit dans les temps anciens parce que c'était correct, puis c'était bien, puis c'était intéressant de se rappeler ça. Mais si on récupère la parabole, c'est pour l'adapter à la communauté à laquelle on s'adresse. Et par voie de conséquence, bien, les évangélistes ont travaillé la parabole originale de Jésus. Mmh. Et vous nous avez exposé donc certains changements. J'ai remarqué, par exemple, que l'hôte qui donne le festin en Luc, eh bien, dans Matthieu, il devient roi.
Oui.
Hein? Ensuite, le grand souper en Luc est changé en Matthieu par festin de noces.
Oui,
et celui qu'on fête est le fils du roi. Voilà.
L'invitation donc, est redoublée.
C'est ça.
Ça devient, hein, chez Matthieu, la mise en scène d'un super événement. Hein. C'est le mariage de l'héritier du trône, ce okay. qui n'est pas rien, surtout dans l'Antiquité. Il n'y a aucun invité qui se permettrait de manquer ça. C'est clair que le contexte nuptial que Matthieu introduit dans le récit force le récit. Et donc, ça le rend encore plus invraisemblable. Ça nous oblige à bien écouter, d'une certaine façon. Ce contexte nuptial, je trouve, fait écho à une autre parole qui est peut-être familière. On pourrait s'imaginer que les serviteurs vont aller crier l'invitation dans les rues et on pourrait la formuler comme suit. « Elles sont arrivées, les noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Et là, je suis certaine que plusieurs ont reconnu la parenté avec ce que nous disons dans la liturgie eucharistique. Ouais. « Heureux les invités au repas du Seigneur. »
Et finalement, votre citation, c'est « Heureux oui. ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Oui. »
Et c'est au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse.
Oui, versets 7 et 9. Ce qui est certain, c'est que l'Apocalypse, le livre chrétien de l'Apocalypse, contient beaucoup d'allusions à la liturgie. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il était écrit alors que Matthieu écrivait son évangile. Hein. Mais simplement, l'apocalyptique naît en monde juif et en monde judéo-chrétien aussi, elle s'épanouit bien. Et Matthieu, lui aussi, est en monde judéo-chrétien. Donc, il y a une parenté là. Alors, vous voyez qu'en introduisant ce contexte de festin de noces dans la parabole, Matthieu est en train de faire comme un signal vers ce que les chrétiens considèrent comme étant les noces de l'agneau. On fait un signal vers Jésus, vers
donc,
le Christ de la foi.
Alors que Jésus parlait de Dieu, finalement, hein?
On pourrait dire que c'est Dieu qui est le roi dans la parabole, mm-hmm. mais il invite aux noces de son fils,
okay.
puisque c'est ça que la parabole dit.
Hein? Okay.
Et du coup, ça place Jésus dans le décor, qui est okay. perçu ici et okay. bien situé
c'est
comme
ça.
L'époux.
Dieu demeure là.
Ouais. En fait, c'est fréquent aussi dans la transmission chrétienne des paraboles, cette tendance à essayer de faire une place à la réflexion christologique, donc à la réflexion chrétienne sur le mystère du Christ, lui faire une place dans les paraboles. On voit ça, par exemple, la parabole des talents ou des mines dans l'Évangile de Luc. Le maître qui donne l'argent à faire fructifier, c'est un roi qui s'en va se faire introniser comme roi. Et donc, c'est clairement une allusion au Messie, au Christ Messie. Vous voyez donc cette tendance, on la retrouve ici dans notre parabole, c'est l'image de l'époux. Qui est aussi une image ancienne dans la tradition chrétienne pour désigner Jésus. On la trouve, par exemple, à Matthieu 9 ou à Marc 2. Hein, les invités à la noce ne peuvent pas être en deuil tant que l'époux est avec eux. On va la retrouver, cette image, dans la parabole de l'époux qui tarde à venir avec les femmes qui ont de l'huile dans leur lampe. Là, il y en a qui en ont assez, puis il y en a qui en ont pas assez. C'est toujours une image du Christ. Et l'image aussi du fils du roi, bien sûr, comme vous le disiez, qui est une figure du Messie. Quand on procède comme ça avec une parabole, c'est-à-dire quand on fait ce que vous et moi nous venons de faire dire, donc l'autre, c'est le roi, le fils, c'est le Christ. Le festin des noces, ce sont les noces de l'agneau. On fait une lecture allégorique. Vous voyez, une parabole, normalement, c'est un récit qui transmet sa signification comme construction narrative, alors qu'une allégorie transmet la signification sur chacun des éléments du récit. On va dire, dans le récit, telle étape correspond à telle chose, tel personnage correspond à telle autre chose. Et donc, Matthieu fait ici une utilisation allégorique de la parabole, comme s'il nous disait, simplement avec le début, hein, c'est-à-dire en nous présentant un roi qui donne un festin de noces pour son fils, c'est comme si Matthieu invitait sa communauté à entendre la parabole en regardant Dieu, qui est le roi, célébrer les noces de son fils qui est Jésus, le Christ, et qui est l'époux de la communauté messianique qui est l'Église. Et il envoie finalement tour à tour ses apôtres, ses porteurs de bonnes nouvelles pour appeler un maximum de fidèles au festin de la Nouvelle Alliance. D'autres changements ont été apportés par Matthieu qui peuvent être éclairés ici par la première lecture de ce dimanche.
C'est ça, la première lecture qui est extraite du livre d'Isaïe au chapitre 25.
Oui, ce que je vous ai donné, c'est une version abrégée, mais tous les éléments importants sont là.
Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Il détruira la mort pour toujours, et ce jour-là, on dira, « C'est lui, notre Dieu. En lui, nous espérions. Il nous a sauvés. »
On est ici dans un contexte que l'Antiquité connaît bien, le contexte du banquet sacré qui accompagnait les sacrifices pour la tradition d'Israël et de l'Ancien Testament, les sacrifices de communion à Dieu. Les gens que ça intéresse, par exemple, trouveront quelque chose au livre du Deutéronome, le chapitre 27. Alors, en communiant à Dieu à l'occasion d'un sacrifice, communiant dans le sens d'être en relation harmonieuse avec lui, bien sûr, là.
Comme quand on s'attable avec quelqu'un, on est en relation avec la personne. Hein? Oui. Quand quelqu'un nous invite à souper ou quand on se retrouve pour luncher, c'est ça que vous voulez dire,
pense. Hein? Tout à fait. Et le repas était une métaphore fréquente pour le festin eschatologique.
Ah, voilà un mot qu'on va... Un autre terme technique, à mon avis, dont il faut connaître la signification, ça vient de « eschaton », qui est un mot grec, qui veut dire « dernier, ultime », en fait. Hein? C'est l'avènement d'un monde enfin transfiguré par le règne de Dieu.
Oui,
Puis je pense, en tout cas, c'est important. Des fois, on refuse d'utiliser certains mots. Moi, je dis « utilisons-les et expliquons-les ».
Oui, bien sûr.
Parce que c'est un mot qui revient souvent, l'eschatologie.
Et dès que les gens commencent à lire un peu des commentaires sur des textes bibliques, ce sont des mots qui vont apparaître. Vous avez parlé de l'avènement d'un monde nouveau. En fait, ça correspond aussi à la fin d'un temps. Sauf que j'hésite à employer cette expression parce que pour nous, la fin des temps, c'est associé à l'apocalyptique, aux catastrophes et tout ça. Alors que l'espérance eschatologique, l'espérance donc que ce temps sera terminé un jour, c'est aussi un courant de pensée qui n'est pas toujours accompagné d'images de catastrophes et ça reflète l'espérance profonde d'Israël et l'espérance chrétienne, l'espérance qu'un jour Dieu sera reconnu comme roi, le règne de Dieu sera effectif, tous les justes seront en communion avec Dieu et pour prendre les termes de Paul, Dieu sera tout en tous. C'est ça l'avènement eschatologique. Et c'est déjà présent dans la foi d'Israël. Et le repas est souvent utilisé comme image. Et d'ailleurs, il y en a des traces dans l'Évangile. On va parler d'être à table avec Abraham, Isaac, Jacob. C'est vraiment du repas eschatologique que l'on parle. L'expression « en ce jour-là » aussi, la fin de la mort, la fin des pleurs, ces expressions-là renvoient au contexte eschatologique, c'est-à-dire à cette ère nouvelle. Quand toute la terre dira « C'est lui notre Dieu ». Nous demandons l'avènement de ce jour lorsque dans notre Père nous disons « Que ton règne vienne ». C'est l'avènement eschatologique. Et il y a des liens que peut-être vous aurez remarqué à la lecture du texte d'Isaïe. Il y a des liens avec notre texte de Matthieu. D'abord, le menu.
Je pense que nos liturges ont fait un bon travail en choisissant ce texte. Ce n'est pas toujours heureux, mais là c'est réussi.
Et le menu, entre autres, qui lui, évidemment, ne convient pas à tout le monde.
Non, viande grasse.
Oui, c'est ça. Et succulente. Moi, je suis tout à fait de l'avis d'Isaïe là-dessus. Dans l'Antiquité, la graisse des viandes était appréciée, probablement parce que les gens mangeaient beaucoup moins souvent de viande qu'aujourd'hui. Et elle est considérée comme une partie précieuse, de sorte que dans certains sacrifices, la graisse de l'animal doit être réservée à Dieu. Alors, si on ajoute à ça, dans le texte d'Isaïe, les vins vieillis, on a l'image de fête, d'abondance, de luxe, et c'est cette ambiance que Matthieu a repris dans son texte. On a aussi dans Isaïe que Dieu préparera le repas sur la montagne. Et ça me frappait de voir dans la parabole de Matthieu, qui envoie ses serviteurs, chez Luc, les serviteurs sont envoyés dire « c'est prêt ». Chez Matthieu, lorsqu'ils sont envoyés une deuxième fois, il leur dit « Vous leur direz, j'ai préparé le repas et donc les bœufs sont égorgés. » Alors, voyez le « j'ai préparé » qui n'est pas rendu par le lectionnaire, mais c'est bien cela qui est dans le grec « j'ai préparé ». Donc, c'est clair que Matthieu a encore là modifié pour non pas reprendre l'Ancien Testament, mais s'en inspirer parce que ses lecteurs le connaissent. Et donc, il veut que l'on perçoive dans cette parabole une allusion au festin eschatologique. Pour les chrétiens, les résonances messianiques sont claires, puisque pour l'Ancien Testament, le Messie est roi. Pour eux, Jésus ressuscité est ce roi associé à la venue du règne de Dieu.